Bonjour à chacun. Ce matin, j'aimerais commencer avec une question directe. Est-ce que votre vie, alors ça fait écho aux premières paroles d'Olivier, est-ce que votre vie compte dans la vie des autres? Est-ce que vous avez une influence dans la vie des autres? En fait, il serait utopique de penser que ce n'est pas ou peu le cas, parce que nous avons tous une influence sur les autres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Pas besoin de faire des choses extraordinaires pour cela. Nos attitudes, nos paroles ou nos silences, nos décisions ou nos tergiversations, nos actes, nos gestes, notre présence ou notre absence, notre sourire ou notre regard qui tue, tout impact à des degrés divers, celles et ceux qui nous entourent, que nous le voulions ou pas, que nous en soyons conscients ou pas. Bien évidemment, beaucoup de ces influences sont anodines et ont peu ou pas d'impact réel sur l'autre. Mais qui peut dire la manière et le degré dont s'exercent les influences réciproques dans les relations humaines ? La question n'est donc pas tant celle du départ, est-ce que ma vie compte dans la vie des autres ? Est-ce que j'ai une influence sur les autres ? Mais plutôt, comment est-ce que j'influence les autres ? En fait, il est bien difficile de répondre à cette question, même si on essayait, parce que la plupart du temps, nous ne pouvons pas mesurer ces choses. C'est bien difficile de mesurer ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent, ce que l'autre comprend. C'est bien difficile de mesurer les effets dans le temps. Pourtant, il nous est parfois donné de voir un effet, par exemple, quand quelqu'un nous remercie pour quelque chose de précis, quand quelqu'un nous dit concrètement l'effet de telle parole, de tel acte, de tel geste dans sa vie. Parfois, c'est aussi le cas, mais de façon négative. Par exemple, quand la personne émet des reproches, coupe les ponts, parce que l'influence, à l'évidence, a été mauvaise. Précisons encore que s'il est difficile, voire impossible, de mesurer notre influence dans la vie des autres, nous pouvons quand même beaucoup mieux mesurer celle des autres dans notre propre vie. Et cela m'amène, ce matin, vous l'avez compris, à parler de l'influence que nous avons ou que nous pouvons avoir dans la vie de celles et ceux qui nous entourent. Et le texte biblique qui va servir d'appui à notre réflexion ce matin se trouve dans le livre des Actes, où nous allons trouver un certain Apollos. Apollos qui a eu un rôle prépondérant, capital, dans le développement de l'Église à ses débuts, et en particulier dans l'Église de Corinthe. Et tout cela, toute cette influence d'Apollos, a existé parce qu'à un moment donné, quelqu'un, précisément un couple, Priscille et Aquilas, quelqu'un a pris la peine, le temps de peser, de compter dans sa vie. Nous allons lire le texte, si vous voulez le suivre dans votre Bible, c'est Actes 18, versets 23 à 28. Actes 18, versets 23 à 28. Après y avoir passé quelque temps, il repartit et parcourut successivement le pays de Galatie et la Phrygie en affermissant tous les disciples. Ça, c'est l'apôtre Paul. Un juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, était arrivé à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler ouvertement dans la synagogue. Priscille et Aquila, après l'avoir entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus précisément, plus exactement, la voix de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent, et ils écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Arrivé là, il se rendit très utile à ceux qui avaient cru par la grâce de Dieu, car il réfutait avec vigueur les Juifs en public et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Pour commencer notre méditation, notre réflexion, je vous propose de nous arrêter premièrement sur Apollos au début de notre récit. Apollos avant sa rencontre avec Priscille et Aquila. Nous apprenons dans notre texte qu'Apollos était juif, originaire d'Alexandrie, ville égyptienne, dans le détroit du Nil. À l'époque de notre récit, Alexandrie était la deuxième ville la plus importante de l'Empire romain. Après Rome, bien évidemment. C'était une grande ville de commerce et de culture, avec la plus grande bibliothèque de l'époque et ses quelques 700 000 manuscrits. Alexandrie, où la communauté juive était très importante, une diaspora importante, puisqu'on estime qu'un tiers de la population d'Alexandrie à cette époque était d'origine juive. Il paraît que dans la synagogue d'Alexandrie, qui était elle aussi la plus grande du temps du Nouveau Testament, cette synagogue était si grande, paraît-il, que le chef de la synagogue devait agiter un drapeau pour que les fidèles du fond sache quand il fallait dire « Amen » aux prières. Alors, est-ce que j'ai besoin d'agiter un drapeau, ça va ? C'est à Alexandrie aussi qu'a eu lieu la traduction de la Septante, la traduction grecque du Nouveau Testament, qui a été un événement majeur dans la diffusion de l'Évangile. Avec un tel arrière-plan, nous ne sommes pas vraiment surpris de lire qu'Apollos, originaire d'Alexandrie, était un homme éloquent. C'était à l'évidence un homme instruit, un homme qui savait s'exprimer. Et notre texte ajoute ensuite qu'il était versé dans les Écritures. Littéralement, il était puissant dans les Écritures. En fait, Apollos avait mis son habileté intellectuelle au service de la parole de Dieu. Il l'avait étudiée, il l'avait apprise, et l'Ancien Testament ne devait pas avoir beaucoup de secrets pour lui. Et c'est la raison pour laquelle nous lisons qu'il était versé dans les Écritures. Arrêtons-nous un instant et posons-nous quelques questions pour y répondre dans notre cœur. Au service de quoi ai-je mis les capacités que Dieu m'a donné? Est-ce qu'il est important pour moi de connaître les Écritures pour en vivre, mais aussi pour en témoigner? Peut-on dire de moi que je suis versé dans les Écritures? Apollos était versé ou puissant dans les Écritures. Nous lisons ensuite au verset 25 qu'il était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit, et qu'il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Apollos était un prédicateur de Jésus. Le texte ne nous dit pas qui a instruit Apollos au sujet de Jésus, mais manifestement, Apollos avait entendu parler de Jésus et il avait accepté ce message. Il avait non seulement reçu ce message, mais il l'avait fait sien, et maintenant il l'enseignait à d'autres. Comment ? Avec zèle, nous dit le texte, beaucoup de zèle. Il était fervent d'esprit. Quand Apollos parlait de Jésus, son visage devait rayonner, car à l'intérieur de lui, quelque chose brûlait. Apollos était à l'évidence passionné, enthousiaste, bouillant, fervent au sujet des choses de Dieu et en particulier au sujet des choses de Jésus. Faisons une nouvelle pause pour nous poser quelques autres questions, pour y répondre toujours dans notre cœur. Est-ce que je suis fervent d'esprit pour Dieu ? Est-ce qu'il y a un feu qui brûle en moi quand je parle de Jésus ? Que reste-t-il du feu de mon premier amour ? Apollos était fervent d'esprit et il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Mais il y avait un problème. Apollos ne connaissait pas tout de Jésus. Le texte précise qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Entendez, Jean-Baptiste. Ce qu'Apollos savait, il le savait bien, et il l'enseignait avec exactitude. Mais la connaissance qu'Apollos avait de Jésus était limitée. Elle était incomplète. Apollos ne connaissait que le baptême de Jean. Il ne connaissait donc pas le baptême au nom de Jésus et tout ce que ce baptême signifiait et donc tout ce que cela renvoyait à l'histoire de Jésus, à la vie, au ministère, à la mort et à la résurrection de Jésus. Apollos devait avoir une connaissance générale de la vie de Jésus, de son ministère et de son enseignement, mais sans doute lui manquait-il la signification de sa mort et de sa résurrection. Ne connaissant que le baptême de Jean, Apollos vivait encore dans l'attente, d'une certaine manière dans l'Ancien Testament, dans l'attente de quelque chose alors que le salut avait été accompli, alors que l'Esprit Saint avait été donné à la Pentecôte. Sans doute ne savait-il même pas qu'il y avait un Esprit Saint, comme ses autres disciples que Paul va rencontrer un petit peu plus tard à Éphèse. Je lis au chapitre 19, le verset 1 à 7. « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. » Il dit, « Quel baptême avez-vous reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean ». Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. » Oui, Apollos enseignait correctement ce qu'il savait de Jésus, mais sa connaissance de Jésus était limitée, sa théologie comportait des lacunes. Le voilà donc à Éphèse, et c'est tout naturellement dans la synagogue que nous trouvons, au verset 26, Apollos en train de prêcher. Et dans cette même synagogue se trouvait un couple, amis et compagnons de l'apôtre Paul, Priscille et Aquila. Ils sont là, ils écoutent ce qu'Apollos a à dire. Peut-être sont-ils impressionnés par son éloquence, par sa connaissance des Écritures, mais son message de Jésus-Christ est incomplet. Que vont-ils faire ? Je relis le verset 26. Il, c'est-à-dire Apollos, se mit à parler ouvertement dans la synagogue. Priscille et Aquila, après l'avoir entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Ils auraient pu le rejeter, ne voir en lui qu'un jeune homme très bien, mais dans l'erreur. Ils auraient pu l'ignorer, ne pas se soucier de lui. Ils auraient pu se lever dans la synagogue au moment où Apollos parlait pour le reprendre directement sur ce qu'il était en train de dire, le corriger publiquement. Ils auraient pu, mais la suite n'aurait certainement pas été la même. Priscille et Aquila n'ont rien fait de tout cela. Après avoir entendu Apollos, nous dit le texte, ils le prirent avec eux, c'est-à-dire certainement chez eux, dans leur maison, peut-être pour un repas, peut-être à plusieurs reprises, et là, ils lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Priscille et Aquila ont pris le risque d'intervenir dans la vie d'Apollos. Rien ne les y obligeait. Ça aurait été bien plus facile de faire autre chose, sans doute. Mais ils ont fait le bon choix. Et à l'évidence, ils l'ont fait de la bonne manière. Et là, dans leur hospitalité, ils ont comblé les vides de la théologie d'Apollos. Ils ont comblé les lacunes qu'il avait au sujet de Jésus. Le texte ne nous donne aucun détail de l'entrevue. Il ne nous dit pas comment les choses se sont passées. Mais d'après la suite du récit, nous savons qu'Apollos a reçu, accepté ce que Priscille et Aquila avaient à lui dire sur Dieu et en particulier sur Jésus. Lui, l'homme instruit, l'homme éloquent, l'homme intelligent, versé dans les Écritures, a été suffisamment humble pour se laisser reprendre, corriger par ce couple, ce simple couple de faiseurs de tentes. C'était leur occupation. Je vous invite à faire une dernière pause pour nous poser encore quelques autres questions et y répondre dans notre cœur. Savons-nous écouter les autres quand ils cherchent à nous dire quelque chose? Savons-nous nous laisser reprendre pour notre bien? Savons-nous nous remettre en question sans tout de suite nous offenser, nous justifier? C'est bien évidemment beaucoup plus facile à faire quand la critique est constructive, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est bien évidemment plus facile à faire quand c'est fait avec tact, avec amour, avec sagesse, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais ce qui a certainement été le cas dans notre texte pour Apollos. Quand c'est à nous de dire quelque chose à quelqu'un, savons-nous dire ce que nous avons à dire en attendant le bon moment ? Pour pouvoir le dire de la bonne manière, en ayant confié cela au préalable au Seigneur. Si le fond est important, ce que nous avons à dire, la forme l'est tout autant. Si la vérité est importante, elle doit toujours être dite avec amour, comme l'apôtre Paul le précise ici dans ce texte d'Éphésiens 4. La vérité avec amour. Nous avons tous besoin du Seigneur pour y parvenir dans toutes les situations de notre vie. Priscille et Aquila ont eu le tact et la sagesse qu'il fallait pour instruire, pour corriger avec douceur Apollos, qui lui a eu l'humilité nécessaire pour se laisser interpeller. Mais pour quel résultat ? Pour une vie réorientée. Et le résultat, d'ailleurs, ne s'est même pas fait attendre. Je relis les versets 27 et 28. « Comme ils voulaient passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent, et ils écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Arrivé là, il se rendit très utile à ceux qui avaient cru par la grâce de Dieu, car il réfutait avec vigueur les Juifs en public et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. » Apollos est parti en Achaïe, plus précisément à Corinthe. Et là, il s'est rendu très utile, nous dit le texte, auprès de ceux qui avaient cru. Et si vous lisez le début de l'épître aux Corinthiens, de la première lettre aux Corinthiens, vous lirez que ce que Paul a planté, Apollos l'a arrosé, et c'est Dieu qui a fait croître. Et dans le verset qui précède, celui où il est dit que Paul a planté, Apollos a arrosé, nous lisons qu'Apollos, avec l'apôtre Paul, qu'ils ont été tous les deux des instruments de salut dans les mains de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Nous lisons dans notre texte, au verset 28, qu'il a préservé l'église de Corinthe de l'erreur, en réfutant les Juifs, en démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ, c'est-à-dire celui que Dieu avait promis, qu'il avait annoncé pour le salut, celui que Dieu a envoyé pour le salut, et celui qui est venu et qui a parfaitement accompli l'œuvre que son Père lui avait confiée pour notre salut. Pour la petite anecdote, Martin Luther, le réformateur, et beaucoup d'autres après lui, ont pensé et pensent encore aujourd'hui, mais bien évidemment il n'y a pas de preuve, mais qu'Apollos serait l'auteur inconnu de l'Épître aux Hébreux. En tout cas, l'auteur de l'Épître aux Hébreux connaissait bien l'Ancien Testament, c'est une certitude. Quoi qu'il en soit, Apollos est devenu un pilier de l'Église naissante. Par la grâce de Dieu, il a contribué à l'établissement et à l'affermissement du christianisme naissant. Par la grâce de Dieu qui s'est servi d'un couple de simples faiseurs de temps, sa vie a été influencée, durablement réorientée pour en faire un instrument efficace dans les mains de Dieu. Comptez dans la vie des autres. Avoir un impact, une influence positive dans la vie de celles et ceux que Dieu place sur notre chemin. Comptez dans la vie des autres et tout d'abord, dans la vie de ceux qui partagent notre quotidien, mon conjoint, mes enfants, si j'en ai, mes parents, ma famille, mes frères et sœurs en Christ, mes collègues de travail, mes amis, mes voisins. Quelle influence est-ce que j'exerce en tant que père, en tant que mère, que grand-père, que grand-mère, que fils, que fille, que pasteur, qu'ancien, que diacre, que moniteur d'école du dimanche, que frère ou sœur en Christ, que voisin, qu'ami. Quel défi devant chacun de nous. Un défi devant lequel nous sommes, je crois, souvent bien démunis. Un défi devant lequel nous nous sentons bien petits. Mais un défi que Dieu veut nous aider à relever. Un défi qu'il veut nous aider à gagner, et ce défi, je crois, qu'il se gagne souvent dans la prière. Ne serait-ce pas formidable si nous commencions chaque jour de la vie que Dieu nous donne en lui demandant de faire de nous une bénédiction aujourd'hui ? Seigneur, fais de moi un homme, une femme d'encouragement aujourd'hui. Seigneur, permets que mon chemin croise en ce jour quelqu'un que je pourrais aider, encourager, soutenir, aimer. Donne-moi le discernement pour le voir. Donne-moi la force pour le faire. Donne-moi la sagesse et l'amour pour bien le faire. Seigneur, garde-moi d'être une influence négative, une occasion de chute ou de découragement. Seigneur, fais de moi un Aquila ou une Priscille pour mon frère ou pour ma sœur en Christ. Seigneur, place aussi sur mon chemin de telles personnes, pour moi, car tu sais que j'en ai besoin, afin que je puisse être là où tu m'as placé, avec les moyens que tu m'as donnés, que je puisse être un autre Apollos. Seigneur, utilise-moi, utilise cette journée que tu me donnes pour la gloire de ton nom. Ne serait-ce pas formidable si nous vivions chacune de nos journées de la sorte? L'histoire que je vais vous raconter maintenant, je l'ai racontée il y a 22 ans, donc il y a prescription. C'est une histoire que j'aime particulièrement et je vous la raconte ce matin parce qu'elle illustre parfaitement le message de ce matin. Un homme marchait sur une plage déserte au Mexique, au soleil couchant. Alors qu'il avançait, il aperçoit au loin un autre homme. En s'approchant un peu plus, il remarque que l'autre homme, à l'évidence natif de la région, se penche régulièrement, ramasse quelque chose et puis le jette dans la mer. Sans relâche, il ramasse, puis il jette dans l'océan. En s'approchant encore un peu plus près de l'inconnu, notre homme remarque que celui-ci ramasse des étoiles de mer qui se sont échouées sur la plage. Une à la fois, il les ramasse et il les lance dans l'eau. Étonné, notre homme s'approche de l'autochtone et entame la conversation. « Bonsoir, mon ami, je vous observais, j'étais en train de me demander ce que vous étiez en train de faire. »« Je jette ces étoiles de mer dans l'océan, » répondit-il. « Vous voyez ces marées basses, et toutes ces étoiles de mer ont été échouées sur la plage. » Si je ne les remets pas à la mer, elles vont mourir par manque d'oxygène. Je vois, répondit le promeneur, mais il doit y en avoir des milliers sur cette plage. Il est impossible que vous les ramassiez toutes. Il y en a simplement trop. Et puis, vous ne réalisez sans doute pas que ce phénomène doit se reproduire sur toute la côte, sur les centaines de plages de la côte. Vous ne voyez pas que vous n'arriverez pas à les sauver toutes? Vous ne voyez pas qu'au final, ça ne changera pas grand-chose? L'homme originaire de la région sourit, se baisse et ramasse une autre étoile de mer en la jetant au loin, puis se tourne vers l'inconnu et lui dit « Pour celle-là, ça fait une différence. Ça change vraiment quelque chose. » Non, nous n'avons pas à influencer le monde entier. Et d'ailleurs, Dieu ne nous le demande pas. Mais nous pouvons certainement parfois faire la différence, changer quelque chose pour celles et ceux qui nous entourent, pour celui ou celle que nous croisons sur notre chemin. Alors que par la grâce de Dieu, nous soyons tour à tour des Priscilles, des Aquila et des Apollos. Reprenons la décision ce matin de tout faire pour avoir une influence positive sur les autres par la grâce de Dieu. Prenons cette décision chaque jour, jour après jour. Faisons-en un sujet de prière. Et je crois que nous aurons la joie, le privilège même de voir parfois Dieu agir au travers de nous. Amen.